Quelle pourrait bien être la mission de l'être humain? Nos jeunes nous demandent ça souvent, hein? J'ai pas demandé à naître. Pourquoi suis-je sur la terre? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est là? C'est pas la science qui va répondre, hein? C'est le frère Jean-Paul Desbiens qui avait écrit quelque chose d'extrêmement intéressant sur ce que la science a pu apporter au XXe siècle. Je cite, c'est pas tellement long. « Toute notre science n'a pas empêché le XXe siècle d'être un siècle pour rien. Naissance et mort de l'URSS. La guerre 1914-18 avec ses dizaines de millions de morts. Entre-temps, éclate la Yougoslavie de Tito. Nous avons choisi aussi, à la guerre 39-45, nous avons eu droit aussi à la guerre 39-45, à l'Holocauste, depuis à quelques 25 millions de morts par le fait de la guerre. Et le frère Desbiens ajoute, et le nucléaire en prime, avec la possibilité que le monde disparaisse sur simple pression d'un bouton. De quoi avait-on peur lors de l'exposition universelle de 1900? Eh bien, de rien. Pas de peur du sida, du tabac, de Mao, de Staline, ni d'Hitler. Laplace, ce fameux savant athée, avait dit, chiffre à l'appui, qu'il n'avait pas besoin de l'hypothèse de Dieu dans son travail scientifique. Puis on roulait là-dessus, ajoute le frère Desbiens. Puis il termine, où la science nous mène-t-elle? Nulle part. Ce n'est pas son but de nous mener quelque part. On oublie ça trop souvent. On dit, oh, la science va nous expliquer ça, la science va nous enseigner ça, la science, eh bien. J'ai parlé la dernière fois de l'évolution, où j'ai bien montré que c'est accepté par l'Église, que ça n'est pas contraire à la foi en tous les cas. Elle dit pas, l'Église, que l'évolution, c'est la vérité. Elle n'a pas à se prononcer là-dessus. Elle ne se prononce pas. Mais elle dit bien que ce n'est pas contraire à la foi. Des auditeurs ont été surpris de ça. Quant à nous, les hommes, on pourrait se demander aussi si l'ensemble de l'évolution, comme les plantes, les animaux, est-ce qu'on pourrait accepter que nous aussi, vraiment, là, nous sommes partie de l'évolution? Devons-nous admettre que Dieu nous a créés directement et totalement, ou bien si on est fruit de l'évolution? Parce que l'homme se différencie tellement des êtres inférieurs, là, les animaux, les plantes, les... Parce qu'on a une capacité d'inventer, c'est incroyable. Quand on voit un enfant grandir, on reste surpris. Sa capacité d'inventer, de raisonner, de retenir aussi, puis de progresser. On dirait qu'une intervention spéciale du Créateur de tout cet univers semble s'imposer pour nous à l'encontre des animaux, qui ont aussi leur part d'intelligence, je dois l'admettre, mais je n'ai jamais vu un orchestre symphonique de dauphins. Je n'ai jamais vu des singes former des chorales. Je n'ai jamais vu des fourmis construire vraiment des œuvres architecturales extraordinaires. Je n'ai jamais rien vu de tout ça. Parce que l'homme se différencie tellement des êtres inférieurs que il faut interroger la science puis la foi. Pour ce qui est de la science, mais la découverte de quelques fossiles humains a amené les savants, on le sait, à étendre au corps de l'homme l'hypothèse du transformisme, de l'évolution. Il est en effet évident que les fossiles qu'on a trouvés, pensez à Théard de Chardin, qui a participé à la découverte du Sinanthrope près de Pékin, vous savez, eh bien, c'était un jésuite, eh bien, il est évident que les fossiles appartiennent à des types d'une espèce de constitution qui serait entre l'homme et le singe. Et dès lors, puisque la science s'efforce d'expliquer par des causes matérielles les faits qui lui sont présentés, bien, il est bien naturel aux savants de conclure à une évolution Puis à une parenté, un certain fossile, comme le pithécanthrope de Java, là, c'est une île de l'Indonésie, c'est l'île principale, Java. C'est là qu'a été trouvé le fameux pithécanthrope, on entend souvent ce nom, puis le synanthrope dont je viens de vous parler, là. Lui a été découvert près de Pékin. Il aurait au moins 100 000 ans. Hein. On est loin des champs de notre enfance, hein, depuis plus de 4 000 ans. 4 000 ans, c'est rien finalement. Bien, ces fossiles-là, le pithécanthrope et le synanthrope, ressemblent tellement à des singes qu'on les range tantôt avec les singes, puis tantôt avec ce qu'on appelle les hominiens. Mais les ossements découverts jusqu'à présent sont rares. Ils appartiennent même à des types très, très différents. C'est pas facile d'établir les relations qui existent entre la race humaine puis la race qu'on appelle simiesque, les singes. C'est tellement difficile que les hypothèses destinées à classer ces découvertes sont nombreuses. On a une espèce d'arbre généalogique, puis on aperçoit bien l'extrémité de quelques rameaux, là. Mais il y a un brouillard épais et qui nous empêche de découvrir les branches maîtresses puis le tronc. Puis un deuxième point pour la science. Hein. On se demande si l'espèce humaine actuelle a comme origine un couple unique ou bien si notre espèce humaine est issue de plusieurs couples apparus indépendamment l'un de l'autre. J'en entends qui disent, c'est pas, ben non, c'est contraire à la Bible. La Bible dit Adam et Ève, un seul couple. Ah, ça n'est plus si sûr. La science admet l'une et l'autre hypothèse. Aucune ne lui paraît s'imposer au nom des faits qu'on a constatés jusqu'à aujourd'hui. Et pour trancher cette question, on ne voit au fond qu'un moyen. Retrouver ce ou ces couples, puis les faire parler, c'est pas facile, ils parleront jamais. Aussi, on peut dire que ce problème est scientifiquement insoluble. On peut pas le solutionner. L'hypothèse choisie par le savant va rester une hypothèse. Un point, c'est tout. Mais en ce qui concerne la présence en nous de quelque chose qui est non matériel, qui n'est pas matériel et que nous appelons l'âme, là, la science ordinaire, la science expérimentale, qui recherche que les faits concrets, ce qu'on appelle les principes matériels, là, qui se touchent du bout du doigt, mais elle répond, la science, bien sagement, que ce problème n'est pas de sa compétence. Elle le réserve à la philosophie, mais de plus en plus elle penche vers la philosophie. On lit de plus en plus d'articles de grands scientifiques qui penchent vers l'âme de façon presque scientifique. C'est très curieux. Mais comme il se pose pour nous aussi bien que pour nos ancêtres, bien, on va examiner ce problème plus tard. J'aime bien à ce sujet ces lignes qu'on peut lire dans le Dictionnaire de théologie catholique au tome 12. Qu'un naturaliste soutienne que l'homo sapiens, l'homme sage, l'homme, le premier homme, qu'un naturaliste soutienne que l'homo sapiens ne peut pas venir du Néandertal, c'est de son domaine, mais qu'il ne prétende pas que la raison vient de l'expérience, c'est de la philosophie, ça. Ou le naturaliste entend que tel est incompétent. Le naturaliste, le scientifique, est incompétent dans ce domaine-là. Bon, mais j'arrive au nœud de la question. Voici en résumé donc l'enseignement de la religion catholique sur l'origine puis la nature de l'homme. Premièrement, l'humanité actuelle tout entière est issue d'une seule et même famille. On le dit, c'est à cause du péché originel qu'on enseigne encore. Hein. Mais toutefois, cette affirmation est sujette, comme je vous ai dit tout à l'heure, à discussion depuis quelques dizaines d'années, à peine. Et les chrétiens et catholiques même, ont bien des raisons sur lesquelles je viendrai plus tard dans une autre émission pour discuter de cette question-là. Deuxièmement, l'enseignement catholique nous dit que l'homme est composé d'un élément matériel, le corps, tout le monde sait ça, puis d'un élément spirituel, l'âme. Ça, c'est très important. Troisièmement, l'âme ne peut venir par transformation de la matière inerte ou vivante. Ça vient pas de là. Hein. L'âme, l'Église nous l'enseigne, elle est créée directement par Dieu. Alors, sur ces deux derniers points, là où il n'y a pas de conflit entre la science et la foi, parce que c'est pas possible. Hein? Mais un autre point. Pour ce qui est du corps, il a été formé par Dieu, mais l'a-t-il été directement ou bien indirectement? C'est-à-dire, est-ce que notre corps vient d'autres êtres vivants avant? La foi catholique n'enseigne rien sur ce point, comme je vous ai dit. Elle est prête à accepter ce qu'on appelle le transformisme. Mais un catholique peut croire que le transformisme, l'évolutionnisme, c'est vrai, donc admettre que Dieu a pris un animal, déjà travaillé par l'évolution, évidemment, sous la direction de Dieu, Dieu qui soutient tout l'univers, pour en faire le corps humain, et que Dieu lui a donné une âme immatérielle, en retouchant puis en perfectionnant évidemment ce corps, afin de le rendre capable d'être l'instrument de l'âme. Hein? C'est clair, c'est évident. Il y a le récit de la Bible. Tout naturellement, bien, on songe aux deux récits de la création de l'homme dans la Bible. Il y en a deux récits l'un après l'autre. Vous savez tous ça. Puis en voici le passage principal où vous souvenez de ça. Hein, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu forma l'homme de la poussière du sol et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est un très beau texte poétique. Que c'est beau. Et ça cache des vérités très très belles. Hein. C'est parce que la tournure du récit, c'est anthropomorphique, c'est comme si Dieu était un être humain presque. C'est un nouvel indice là, du caractère populaire de ces pages de l'Ancien Testament. Hein. On peut pas prendre ça à la lettre. Hein. Il faut bien comprendre. Et d'après ce texte, bien Dieu crée l'homme à son image, c'est-à-dire qu'il en fait un être spirituel. Spirituel. Nous sommes des êtres spirituels avec une intelligence et une volonté. Puis dans ce but, Dieu nous a communiqué, nous communique un principe de vie qui est l'âme. Et en ce qui concerne le corps, bien, on peut remarquer que même en prenant le récit biblique là, au sens littéral, il n'est pas dit que Dieu crée, en ce sens qu'il fait de rien le corps de l'homme. Non, non. Il est bien dit dans le texte qu'il s'est servi de la poussière du sol, donc d'une chose créée préalablement. Puis le récit n'impose évidemment pas une véritable création du corps du premier homme à partir de rien. Au contraire, le récit de la Bible affirme que Dieu s'est servi d'une matière préexistante sans préciser quelle est de quelle sorte de matière. C'est intéressant ça de bien penser à ça quand on discute avec les jeunes. Hein? Et dès lors, le texte biblique laisse la porte largement ouverte à cette idée du transformisme, de l'évolutionnisme, d'après laquelle le corps serait précisément le résultat de toute une évolution d'une matière déjà créée. Alors, beaucoup de théologiens actuels acceptent avec sympathie cette hypothèse scientifique. Hein? Je cite d'ailleurs Teilhard de Chardin dans son article intitulé « Homme » dans le dictionnaire apologétique de la foi catholique. Oui, il a participé au dictionnaire apologétique de la foi catholique. Il dit « À la conception évolutionniste qui fait sortir l'homme d'une force génératrice immanente au monde, il est possible d'accorder une large part de ces postulats. L'homme a surgi à une heure et dans des conditions que dictait l'ensemble des lois physiques et biologiques. Puis, écoutez bien ça, il a poussé dans le monde plutôt qu'il n'y a été créé. Il était le fruit attendu et en quelque sorte impliqué dès les origines. » C'est Teilhard de Chardin qui dit ça. Et c'est tout à fait conforme à l'enseignement que les théologiens s'accordent à admettre aujourd'hui que Dieu est intervenu pour adapter ce corps façonné par l'évolution avant de lui communiquer l'âme. C'est conforme, mais c'est pas facile. Comme je vous prépare une émission sur Blaise Pascal, vous connaissez tous Blaise Pascal, j'imagine, on en entend souvent parler. C'est pour le 24 novembre, ça, je prépare ça. Puis Blaise Pascal dit à un moment donné, « Quand je considère le petit espace que je remplis, et même que je vois, abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie. Et je m'étonne de me voir ici plutôt que là. Qui m'y a mis? Qui m'a mis ici? Par l'ordre et la conduite de qui ce lieu à Montréal, et ce temps, à la fin du XXe siècle, par l'ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi? C'est la question à laquelle j'essaie de répondre un petit peu ce matin avec tout ça, parce que la vraie science, elle découvre les lois que Dieu a mises dans la nature, mais la vraie foi, elle fait part, Elle nous enseigne des vérités que Dieu a communiquées aux hommes. Or, Dieu ne se contredit pas. Hein? Dès lors, il ne peut y avoir d'opposition entre la vraie science et la vraie foi. Hein? Il n'y a pas d'opposition. N'oublions jamais ça. Remarquons seulement que dans la science, il y a toutes sortes d'hypothèses, puis que par ailleurs, trop de gens, trop de catholiques voient des vérités de foi là où il n'y en a pas. Moi, j'aimerais bien qu'on cesse dans l'Église catholique, chez les gens ordinaires, et même certains prêtres peut-être, de penser qu'il faut croire à toutes sortes de choses auxquelles nous ne sommes pas du tout obligés de croire. Je prends un exemple. Au point, il y a quelques jours, on a fait, à l'occasion de la mort de Mère Teresa, on a parlé de la canonisation. Puis, c'était fait par Achille Michaud, ça qui est un incroyant avéré, il ne s'en cache pas, et la réalisatrice Esther Blondin. Et puis, on a dit que l'infaillibilité pontificale, c'est-à-dire l'infaillibilité du pape, était engagée lors des béatifications et des canonisations. C'est tout à fait faux. Tout à fait faux. Une canonisation puis une béatification, c'est pas nécessairement une vérité à laquelle il faut croire. On n'est pas obligé de croire que telle personne est un bienheureux ou un saint. C'est une proposition à peu près sûre après longs examens. Et on peut accepter, mais là non, pas croire que l'infaillibilité pontificale est insérée là-dedans. Or, la mission de l'homme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi on est ici? On va oublier pour l'instant le fait que Dieu a appelé l'homme à une vie surnaturelle. On va regarder là, simplement sur le plan naturel. On peut faire ça, pas défendu. La grâce ne détruit pas la nature, c'est sûr. Elle l'élève, la nature. Elle anoblit la nature, la grâce, la présence de Dieu. Ce que je vais vous dire là, de la mission de l'homme dans l'ordre de la nature, ça va garder toute sa valeur quand je vais vous parler de son élévation à l'état surnaturel. On fera ça dans une autre émission. Alors, qu'est-ce qui est naturel pour l'homme? Tout d'abord, tout ce qui appartient à sa nature créée, corps et âme, ça c'est naturel. Tout ce qui résulte de ça, là, de la nature créée, puis de ses forces, ses facultés, les besoins, les propriétés, tout ça là, c'est naturel. Puis enfin, il y a des buts, puis des obligations, des efforts, des tendances qui correspondent à ces forces qui sont en nous, là, puis les moyens aussi avec lesquels on arrive à certains buts. Ça, c'est naturel. Si tu, les athées et nous, ben, on est sur le même plan là-dessus, sur la nature. Mais quelle est donc, dans l'ordre purement naturel, la mission de l'homme? Ben, le catholicisme répond, ça, c'est naturel. Nous sommes faits sur la terre, mis sur la terre pour connaître, aimer et servir Dieu. Sur la terre, puis ainsi s'assurer un bonheur éternel qui commence dès ici-bas d'ailleurs. Parce que Dieu, ça se prouve avec la tête, c'est naturel de croire en Dieu. Les gens qui disent qu'il faut un acte de foi bien particulier, je ne suis pas d'accord. L'univers nous prouve l'existence de Dieu. Bon, on dit que c'est pas vrai. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. La vie future de l'homme aussi va être heureuse ou malheureuse selon la manière dont il vécu notre vie ici sur la terre. Et cette tâche n'est pas imposée à l'homme et à la femme de l'extérieur. La tendance naturelle puis instinctive de tout homme, toute femme, nous dicte où est le bonheur, où est le bon et le mauvais. Bon, il faut connaître Dieu d'abord. J'ai dit qu'il fallait connaître Dieu. L'homme doit tout d'abord, simplement sur le plan humain, utiliser son intelligence pour affirmer à la simple contemplation des merveilles de la nature l'existence d'un créateur. Pour moi, c'est évident, c'est à crier, c'est la tendance instinctive et naturelle de l'intelligence humaine, me semble, qui cherche l'être dans sa plénitude. Cet être et sa plénitude, bien, c'est Dieu. Cet être dans sa plénitude, c'est Dieu. Et puis, dans la mesure où nos propres moyens nous le permettent, nous allons nous efforcer de préciser la nature de cet être suprême. Et pour savoir un peu, un tout petit peu qui est Dieu, il faut faire un petit effort. On ne sait pas grand-chose par la nature, par nous-mêmes, par notre intelligence de qui est Dieu. De toute façon, quand on parle de Dieu, on se trompe presque toujours. Parce que c'est insaisissable. Hein? On peut pas aller bien loin dans la recherche de Dieu avec notre intelligence. Mais on va aspirer tout naturellement à recevoir de Dieu même un complément d'information. Hein? Il y a un cri qui jaillit de l'homme. Tout naturellement, je suis sûr, au fond des cavernes. Hein. Seigneur Dieu, qui donc es-tu? Et on le dit toujours. Hein. Et comment t'aimer, ô mon Dieu? Parce qu'il faut aimer Dieu. Mais comment faire pour aimer Dieu? Quand on a fait la connaissance de Dieu, bien, me semble naturel que naisse en nous un certain sentiment d'amour. Peut-être de crainte aussi, tant qu'on connaît pas le véritable amour de Dieu. On peut avoir peur de Dieu. Je suis pas d'accord, mais on peut avoir peur de Dieu. Puis on a un sentiment d'adoration. Mais comment adorer Dieu? Et ça va s'exprimer dans une prière personnelle, c'est naturel. Puisqu'on vit en société, ben on va faire un culte collectif. Prier, louanger ensemble, c'est archi normal. Alors, éclairé par notre conscience des choses, nous allons nous efforcer de conformer notre vie aux règles morales que notre nature nous dicte. Et ça, c'est Dieu qui a mis ça dans notre cœur. Alors, en concevant Dieu comme la source de tout bien puis la perfection infinie, ben, me semble que les hommes et les femmes, à travers les siècles et les siècles, ont dû sentir naître en eux, comme on le sent nous-mêmes, le désir imprécis puis inefficace de voir Dieu, de le posséder tel qu'il est, de l'aimer davantage. Alors vient ce besoin de servir Dieu. Hein? C'est pas que Dieu ait besoin de nous. Il ne manque évidemment de rien. Mais il nous aime. Il nous a créés par amour. Et servir Dieu, c'est pas comparable au service d'une servante ou d'un serviteur à l'égard de son maître. Ça signifie que nous sommes appelés à collaborer avec Dieu dans son œuvre créatrice et en parachevant cette œuvre créative. Comment ça? Peut-être en étant écologistes, des vrais écologistes, oui. C'est un bon début. Et en respectant toute la nature, toute la vie. Car aussi étrange que cela puisse paraître, l'œuvre de Dieu est incomplète. Hein? La Terre, c'est une espèce de symphonie inachevée. Et cela par la volonté même du Créateur. Et si Dieu avait voulu tout faire, ben il aurait dû construire lui-même les maisons, les tables, les lampes électriques, les souliers, etc., les lunettes. Bien plus, il aurait dû cuire le pain du boulanger, il aurait dû couper la viande du boucher, il aurait dû devenir chef cuisinier, quoi. Bien plus, il aurait dû nous dispenser de mâcher nos aliments, puis peut-être de les digérer, voyons donc. Il aurait peut-être dû supprimer toute croissance, toute respiration, tout déplacement, tout mouvement. Et le monde aurait été immobile, muet, glacé, quelle horreur! Non, Dieu a mieux fait les choses en nous plaçant dans un monde demi-fini, avec la mission d'achever son œuvre. Nous sommes ici pour achever l'œuvre de Dieu. Pensez aux mères qui demandent volontiers l'aide de leurs enfants pour préparer la table, mettre la table, puis préparer le repas. Dieu a voulu associer les hommes à son œuvre créatrice comme ça, comme une mère. Et dans ce but, il n'a fait que l'ébaucher, puis il nous invite tous à continuer son geste créateur. C'est donc pour permettre aux hommes puis aux femmes de lui témoigner leur amour que Dieu nous a soumis à cette épreuve, d'achever avec lui la création. C'est ce qu'a fait Mère Teresa. Ben oui, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce que font des millions et des millions de gens généreux sur cette terre. Alors l'homme, la femme, doivent continuer en eux-mêmes l'œuvre de la création. Nous devons mettre en valeur les talents que nous avons reçus de Dieu. Nous devons développer notre corps, augmenter nos connaissances, régler de plus en plus nos vies d'après les indications de notre conscience au fond nous-mêmes. Nous devons développer progressivement puis harmonieusement notre personnalité puis devenir parfait comme Dieu est parfait et devenir des saints. L'homme est une terre féconde, elle est riche des énergies que Dieu a mises en nous. Et notre mission, c'est d'épanouir tout ça, des énergies fantastiques, et de libérer les forces vives, d'épanouir harmonieusement nos capacités physiques, intellectuelles, artistiques et morales. C'est ça la vie. Et c'est naturel. C'est naturel, on n'a pas besoin de l'enseignement de la Bible pour savoir tout ça. C'est naturel. Tout homme devrait comprendre ça, toute femme devrait comprendre ça. Aujourd'hui, on cherche à savoir quelle est la mission de l'homme. Simplement, avec notre intelligence. Pas avec la foi catholique, là. Simplement avec notre intelligence. Mais aussi avec des connotations catholiques quand même, un peu ici et là. En somme, nous sommes comme des artistes et nous devons créer de notre vie une sorte de chef-d'œuvre. Nous devons modeler notre être puis réaliser ce beau type d'homme ou de femme que Dieu nous demande de devenir, un beau type de femme que Dieu demande d'être, un beau type d'homme, vrai. Et nous devons continuer autour de nous l'œuvre de la création de Dieu, car la création, l'univers nous enseigne bien que Dieu existe et que c'est Dieu qui a tout fait ça. Alors nous devons, nous, hommes et femmes, dominer progressivement la matière, puis mettre en valeur les richesses du sol puis du sous-sol. Nous devons agencer, en vue d'un plus grand rendement, là, les éléments de la nature, afin que le monde, qui nous est extérieur, nous aide à nous élever. Puis on doit s'élever avec ce monde, tout en respectant l'œuvre de Dieu. Et dans cette perspective, tout travail honnête continue l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous faisons devrait spiritualiser la matière. Oui, même le jeu d'un magicien comme Choquette à la télévision qui amuse les gens, ça spiritualise tout. Jusqu'au travail de l'ingénieur, lui, qui met les forces de la nature au service de l'humanité. C'est sûr, ça. Ça fonctionne comme cela. Il y a aussi l'humble besoin d'une mère ou d'un père de famille qui prépare les repas, qui fait le ménage, qui fait le lavage. Ça soulève l'humanité. Chaque fois, la matière gagne en valeur. La matière s'imprègne de l'esprit. Elle devient plus apte à assurer notre bonheur temporel et éternel. Un amas de pierre ou de ferraille devient donc une maison et même une cathédrale. Un morceau de bois bien ordinaire fait place tout à coup à un manche d'outils, puis à une table de travail, une table pour manger. Avec un rien de couleur, vous vous souvenez, Frangelico, je vous ai fait une belle émission, me semble, le 18 février dernier. Mais Frangelico, avec un peu de couleur, il ravit nos yeux depuis des siècles. Il élève notre âme. Pensez aux cultivateurs, aux jardiniers. Les jardiniers qui font de si belles choses, l'homme sert donc Dieu en achevant son œuvre autour de lui puis en lui-même. Créé à l'image de Dieu, l'homme est appelé à être, dans une certaine mesure, créateur, maître, organisateur. C'est Henri Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, qui dit, « Le monde, c'est très beau ce qu'il dit, le monde est une entreprise de Dieu pour créer des créateurs, pour s'adjoindre des êtres dignes de son amour. » Que c'est beau. Et tu sais, simplement, c'est avec la raison, là. Je parle rien qu'avec ma raison, là. Me semble. En conséquence, donc, toute l'activité humaine est soumise à deux lois. Tout d'abord, ben, il y a la loi du travail. L'homme, la femme doivent travailler. Il est, au fond, nous sommes tous, au fond, des ouvriers sur les chantiers du monde, on pourrait dire. Hein. Puis, il y a la loi du progrès, il y a la loi du travail, mais la loi du progrès. Hein. Nous sommes mis sur la terre pour perfectionner l'œuvre de Dieu. Nous devons donc être sympathiques à tout progrès réel, en quelque domaine que ce soit. Tout progrès réel, j'insiste, hein, c'est pas toujours comme ça. Au lieu de maîtriser la matière, l'homme moderne s'enchaîne à elle souvent. C'est terrible ce qu'on fait actuellement. Trop souvent, nous devenons esclaves de la matière. Le principe reste cependant immuable. L'homme est mis sur terre pour faire œuvre de progrès. Et la stagnation en quelque domaine que ce soit, physique, scientifique, technique, morale, tout ça, c'est contraire au plan de Dieu. Ça vous surprend? Oui, Dieu est pour le progrès. L'Église catholique aussi. Celui qui admet la doctrine catholique doit donc être en faveur du progrès. Il doit être favorable au progrès. J'ai donc dit que si l'homme et la femme ont comme tâche de connaître Dieu, aimer Dieu, servir Dieu et aussi de faire toutes sortes de choses, ils doivent se servir eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On le voit par ce qui précède. En servant Dieu, c'est-à-dire en collaborant à l'achèvement de l'œuvre divine, l'homme sert en définitive sa propre cause et ses propres fins, oui. Toute créature humaine, quelle qu'elle soit, cherche nécessairement son intérêt. Ça va peut-être vous scandaliser. C'est le cas, je dirais, de Mère Teresa, puis de la petite sœur des pauvres, les missionnaires de la charité, qui passent leur vie à soigner des malades. C'est le même problème pour le financier qui envoie un don anonyme à une œuvre. Le financier, vous savez, recherche la satisfaction sans doute secrète au fond de son cœur d'avoir fait des heureux par ses largesses anonymes. Et la sœur, elle, comme Mère Teresa, en ne cherchant que la gloire de Dieu, aura la consolation de soulager les misères, ou en tout cas, elle va augmenter en elle la chaleur de son cœur. Et c'est sûr que, dans le langage courant, on dira qu'une personne, qu'elle est désintéressée, quand elle ne recherche pas un avantage matériel ou un mot d'approbation, c'est évident que dans ce sens, un certain nombre d'actions humaines ne sont pas intéressées, comme on dit. Mais en fait, il y a Dieu seul est vraiment désintéressé. C'est-à-dire, il est le seul à ne trouver aucun avantage personnel dans son œuvre et dans le travail des hommes. Il ne tire aucun profit de la création. Il n'a aucun intérêt à cela. C'est pas comme nous. En tout cas, c'est pas comme moi. En Dieu, aucune privation, aucune souffrance, aucune diminution de gloire ne peut subvenir du fait que l'homme refuse sa collaboration. Mais je me demande des fois s'il ne souffre pas. Pour moi, Dieu souffre. Mais en dehors de Dieu, dans la création elle-même, qui se fera ressentir toute négligence humaine, regardez autour de vous, c'est en dehors de Dieu que tout ça se fait. Et en définitive, c'est donc l'homme lui-même qui va être la seule victime, comme aussi le seul bénéficiaire de son activité. Mais je suis sûr que Dieu se réjouit avec nous de nos bonheurs et qu'il souffre avec nous de nos malheurs. Une autre tâche de l'homme, c'est de servir les autres. Un père de famille, une mère de famille font volontiers l'aumône à un pauvre en donnant une pièce de monnaie à leur enfant pour qu'ils l'attendent aux mendiants. Et par là, le père, la mère s'associent aux gestes charitables de leur enfant. C'est comme ça avec Dieu. Dieu dépose dans les mains de chaque homme, de chaque femme, des talents, avec la mission de les mettre à la disposition de ses semblables, après les avoir développés. Dieu, c'est pas un Dieu égoïste qui se réserve la puissance, les largesses. Il nous a mis dans la possibilité d'être avec lui bon et puissant. Est-ce qu'on y a assez pensé, ça? Que Dieu nous a donné tout ça pour le faire, pas pour penser qu'on pourrait peut-être le faire un jour. Pour le faire dans le moment présent, il nous a rendu à droit de nos mains, afin de travailler le bois, le fer, la laine. Puis on confectionne ce qui est indispensable, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres personnes. Dieu a donné l'intelligence à quelqu'un afin qu'il découvre de nouvelles richesses dans la nature, puis qu'il les mette à la disposition de tout le monde. Nous travaillons toujours pour les autres. Un tel a reçu le don de la musique pour les autres. Un autre, celui de la parole pour les autres. Un troisième, celui de planter puis d'émonder les arbres avec art puis de construire de beaux jardins pour les autres, et ainsi de suite. L'homme n'est donc pas maître absolu de ce qu'il a reçu. Il est dépositaire d'une partie des biens que Dieu destine à l'humanité. L'homme, la femme ne sont que des intermédiaires. Comme l'enfant dont nous avons parlé, là, il va être récompensé, l'homme, la femme, nous serons récompensés dans la mesure où nous aurons accompli notre mission de charité et d'entraide, et nous sommes récompensés dès ici-bas. Dieu n'a pas conçu l'humanité comme une espèce de collectivité d'individus, comme des fourmis qui travaillent chacun pour soi, mais comme une grande famille, où chacun doit s'ingénier à l'imitation de Dieu et dans la mesure de ses talents, à augmenter le bonheur des autres. Les hommes sont donc appelés à rester unis, non seulement au Créateur, leur Créateur, mais aussi entre eux. Il y a une loi d'amour qui règle les rapports de l'homme avec Dieu, c'est sûr, mais ça doit commander les rapports avec nos semblables. Écoutez bien ceci. Afin d'empêcher ces créatures de se replier sur elles-mêmes puis de s'isoler, Dieu les a mises dans la nécessité d'avoir besoin les uns des autres. En distribuant ses dons d'une manière inégale. Pourquoi inégale? Et c'est là un fait brutal de constatation. Tous les jours, on fait cette constatation. Hein? Les hommes et les femmes ne reçoivent pas les mêmes dons. C'est comme ça. Je ne parle pas de l'inégalité financière, là, qui sépare le riche du pauvre, qui fait que la princesse Diana a grandi dans une maison de 100 pièces, puis qu'elle est morte avec une bague d'un quart de million au doigt. Les inégalités, c'est surtout le fait des hommes. Je pense à l'inégalité des santé, l'inégalité des forces physiques, l'inégalité des aptitudes intellectuelles, même l'inégalité des âges. Il y en a qui sont jeunes, d'autres sont vieux. C'est évident que cette inégalité va toujours être là, sous une forme ou sous une autre. Quels que soient les efforts des hommes, des femmes pour niveler les conditions de vie de chacun. Et la raison en est bien simple. C'est Dieu lui-même qui a fait de cette inégalité une loi du monde, au même titre qu'il a soumis les corps matériels à la loi, disons, de la pesanteur. C'est une loi sur la pesanteur, mais c'est une loi l'inégalité. Reste à expliquer les intentions de Dieu. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi c'est comme ça? C'est sûr qu'on peut signaler que Dieu est le maître de ses dons, et puis qu'il les distribue comme bon lui semble. Bon. S'il accorde plus à mon voisin qu'à moi-même, je ne peux pas crier à l'injustice puisque Dieu ne me doit rien et que l'injustice suppose un droit qui aurait été violé. Mais on dirait que Dieu a des caprices, hein? Oui, vraiment. À bien y penser. On peut ajouter que la vie humaine, ainsi que le progrès, serait impossible sans cette inégalité. Ben oui, ce serait pas possible. La raison dernière est profonde, là. La voici. Cette inégalité est voulue par Dieu parce qu'elle permet aux hommes et aux femmes de donner comme Dieu donne et de participer aussi à son œuvre d'amour. Et on peut s'écrier « Ô douce inégalité ». C'est par cette inégalité, par exemple, que surgit tout à coup dans le cœur d'une mère ou d'un père la providence de Dieu pour son petit enfant. La mère a toutes sortes de qualités, et le père aussi, pour s'occuper de leur enfant. Et l'enfant, il a besoin de ça. Il est inégal. Et n'est-ce pas cette inégalité qui donne, disons, mettons, au chauffeur d'autobus à Montréal, la possibilité de rendre service à ses semblables? Vous savez, il y a des chauffeurs d'autobus qui sont tellement gentils, qui nous disent bonjour, et qui, j'en vois même qui se lèvent pour aider une vieille dame à rentrer. N'est-ce pas grâce à l'inégalité que des hommes peuvent se dévouer de mille manières, en étant policier ou ingénieur, avec des femmes aussi qui font ça, ou en étant simplement chanteur, ou fleuriste, boulanger, je dirais même vendeur de billets de spectacle. Dans les intentions de Dieu, cette inégalité n'en est pas une en définitive, parce que les talents de chacun appartiennent à toute la collectivité des hommes et des femmes et des enfants. Toute faveur divine faite à un individu doit rejaillir sur les autres. L'intelligent doit éclairer l'ignorant. Le bien portant, il doit soutenir le malade. L'adulte, il aide les enfants. Le riche, il soulage les pauvres. Le boulanger, ben, il donne du pain au cordonnier. Puis le cordonnier, lui, ben, il aide le médecin à avoir de meilleures chaussures, puis, etc., etc. Personne sur terre n'est à tel point pourvu de tout qu'il n'ait pas besoin de son prochain. On a tous besoin de notre prochain. Personne n'est à ce point dénué de moyens qu'il ne puisse être utile non plus à la collectivité. Nous avons tous des talents. La souffrance elle-même, oui, oui, c'est une richesse dont les autres peuvent bénéficier. Je disais ça souvent à ma mère qui ne pouvait plus rien faire. Vous êtes utile. Regardez, le cœur bondit dans les... dans ces gardes malades qui s'occupent de vous. Et c'est merveilleux, elles ont sourire aux lèvres en s'occupant de vous parce que vous êtes bonne pour eux. Vous savez souffrir avec joie. Et dès lors, l'inégalité que Dieu semble mettre dans la distribution de ses dons se trouve corrigée par une loi naturelle, je dis bien, qui rétablit l'équilibre. Hein? La loi de la charité, autrement dit, la loi du service d'autrui qui oblige chacun à mettre ses talents à la disposition de son prochain, c'est ça. Et sans ces liens fraternels, Il n'y aurait évidemment que mécontentement, puis désaccord, jalousie, puis de l'anarchie. On le voit bien, et le monde actuel en donne la preuve, hein. C'est horrible. Quand il n'y a plus cette conscience naturelle du dévouement et du don de soi. On verra tout à l'heure, après avoir écouté un passage de l'offrande musicale de Bach, interprété par l'ensemble Larion, nous verrons la fin et comment on arrive à trouver notre mission, simplement sur le plan naturel, sur cette terre. Je vous ai dit que tout homme, toute femme, notre intelligence, notre raisonnement, nous pouvons connaître que Dieu existe, nous pouvons apprendre à l'aimer, nous pouvons comprendre que nous devons le servir pour être en harmonie avec la nature, et puis que tout ça nous sert à quelque chose et nous engage à servir les autres aussi. Mais on doit les servir librement. Hein. Dieu a fixé une tâche à tout homme et à toute femme, d'assurer son propre bonheur. C'est ça la principale tâche. Notre propre bonheur terrestre et éternel, en assurant en même temps celui de nos semblables. Dieu nous invite à compléter la création, qui est une œuvre d'amour. Or, l'amour requiert la liberté. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas soumis les hommes et les femmes aux lois aveugles qu'il a imposées aux êtres matériels. Et c'est librement que l'homme va remplir sa mission. L'amour ne peut s'adresser qu'à des êtres libres. Nous ne parviendrons jamais à nous imaginer nous-mêmes, façonnant, vous savez, un automate, un robot perfectionné qui nous répéterait « Je t'aime ». Un seul amour a pour nous de la valeur, c'est celui que nous accorde librement un être libre. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. Nous n'attachons aucun prix aux marques d'affection que nous témoignent des gens qui veulent nous emprunter de l'argent ou obtenir un service ou obtenir une promotion et qui nous montrent beaucoup d'affection. On sait que c'est de l'affection intéressive, c'est pas de l'amour, ça. On le sait bien. Toute la création matérielle, celle des plantes et celle des animaux, n'ont été pour Dieu qu'une espèce de préambule. Et Dieu s'est fait un homme libre pour rattacher dans un élan, je dirais, d'adhésion filiale, tout l'univers. Il rattache tout l'univers à sa source, qu'il est lui-même. Un homme libre, c'est-à-dire qui est capable de dire non, mais qui est capable aussi de dire oui. Et nous, nous sommes faits pour rattacher tout l'univers au cœur de Dieu. Une fois que Dieu crée un être libre, évidemment, le péché devient possible. Et pour que cette éventualité ne se produise pas, il faudrait que Dieu prive l'être humain de sa liberté et qu'il le réduise dès lors à une espèce d'état de l'animal qui agit par instinct. C'est pas Dieu qui est la cause du péché. Si un père de famille donne à son fils une somme d'argent pour qu'il s'établisse à son compte, il ne peut être rendu évidemment responsable du mauvais usage que, contrairement à sa volonté, son fils a fait de l'argent qu'il a reçu. Ainsi, Dieu nous donne la vie. Il nous donne l'intelligence, la volonté, et puis d'autres biens encore, pour que nous fassions une œuvre personnelle, comme lui-même l'a fait. Et Dieu peut pas être rendu responsable du mauvais emploi que nous allons faire de ce qu'il nous a donné. D'aucune manière, il le veut le mal, il ne veut pas le mal. Mais il ne peut s'y opposer qu'en renonçant à ses desseins et en nous privant d'une vie vraiment humaine. C'est le péché qui est une initiative de l'homme. C'est un refus de collaborer avec Dieu dans telles circonstances déterminées. Puis les conséquences du péché, ben vous les voyez autour de vous. Ça va jeter dans le désordre l'œuvre de Dieu. Et puisque l'homme est l'unique bénéficiaire de la création, ben le péché va l'atteindre lui-même inexorablement. Lui et ses semblables, tous ces gens oubliés. Parce que nous n'aimons pas. Tout le mal que nous voyons actuellement autour de nous vient du péché des hommes et des femmes, et uniquement de ce péché. Et pourquoi atteint-il souvent des innocents? Je vous le dirai plus tard dans une autre émission. Mais telle est donc la mission de l'homme, connaître Dieu, l'aimer et le servir. Le servir, c'est se servir soi-même et servir le prochain. Il ne s'agit pas de trois missions distinctes, non. Servir Dieu, c'est servir le prochain. Servir le prochain, c'est assurer son bonheur temporel et éternel. Chercher son bonheur, c'est servir Dieu, puis assurer le bonheur d'autrui. Et en agissant ainsi, bien l'homme et la femme progressent dans l'ordre, non pas dans le désordre, ils progressent dans l'ordre. L'homme et la femme ainsi vivent conformément à leur nature, puis s'épanouissent librement, puis s'assurent un bonheur, une joie sans fin pour toujours. Comment dire? J'ai devant moi un texte d'une amie qui est décédée très âgée, Madame Gaulle, Régine Scholler-Gaulle. Elle a traduit ça cette année, juste avant de mourir. C'était un texte d'un mystique allemand du 14e siècle. Elle connaissait bien l'allemand, elle venait de l'Alsace. Et puis, dans son texte, c'est écrit « Toutes les créatures veulent retourner à leur origine ». Elle se prépare à la mort. Et dans ce texte, il est ajouté « Jette une pierre en l'air, elle ne se reposera pas jusqu'à ce qu'elle repose sur la terre d'où elle vient. La terre est sa patrie. L'air, c'est l'étranger. Et même si on la retenait de force en l'air pendant 1000 ans, il lui resterait cette attraction vers la terre, car sitôt en liberté, elle retomberait par terre. Il en va de même pour le feu et pour toutes les créatures. Elles recherchent leur patrie naturelle. Si on demandait à l'eau, « Pourquoi coules-tu sans arrêt ?» Elle répondrait, « Parce que je veux retourner à mon origine, d'où je viens, car toutes les eaux coulent en direction du lieu d'où elles viennent, c'est-à-dire la mer. De même, toutes les créatures se pressent vers leur origine, là d'où elles viennent. Le lieu d'où je suis né, c'est Dieu, car, dit saint Augustin, l'âme est créée par et pour Dieu. Dieu est donc ma patrie, il est la patrie naturelle de l'âme. De même que la pierre repose sur la terre et le feu dans l'air, ainsi l'âme repose en Dieu. De même qu'il est naturel à la pierre de tomber, il est naturel à l'âme de s'élever vers Dieu. L'âme, elle aussi, a son pouvoir d'attraction. Elle veut retourner là d'où elle vient. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'âme est de par sa nature un miroir de Dieu. L'image de la Trinité est une représentation de l'éternité. C'est pourquoi elle a une tendance naturelle à retourner vers sa source, son origine. De même que la pierre ne perd jamais sa tendance vers la terre, de même l'âme ne perd jamais sa tendance vers Dieu. Comment pourrait-on me prendre ce que je possède de par ma nature? Veux-tu vivre en dehors de Dieu? Alors tu meurs vraiment. Je vous rappelle, c'est un texte intitulé « Das geistliche Leben », écrit par des mystiques allemands du 14e siècle, de Heinrich Seuss, Denifflin, dominicain, traduit par Régine Scholler-Gaulle, qui vivait à Outremont, et aussi à Austin, près de Saint-Benoît-du-Lac, et qui est décédée cette année, très âgée, c'était une grande amie, que je salue, que j'ai beaucoup aimée.